Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes actuellement sur la 94.9 FM et vous écoutez la saison 1, épisode 1, épisode pilote de Radio BD Bedeck, l'émission qui parle de BD, de romans, de mangas et de tout ce qui s'en rapproche. Je m'appelle Aeva et j'ai avec moi Alexandre et Mathieu.
Bonjour.
Bonjour.
On est tous les trois membres de la bibliothèque de bande dessinée des étudiants de Compiègne, aussi connue sous le doux nom de BD Bedeck. Vous pouvez nous retrouver du lundi au vendredi au rez-de-chaussée de la bibliothèque universitaire de l'UTC et nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram pour découvrir nos activités et notre collection. On est parti pour une heure d'émission. Aujourd'hui, le thème principal, le sport, mais pas que, au programme Nos Lectures du Moment. Un peu d'actualité, la chronique du fil, une discussion autour du sport et peut-être quelques bonus pour la fin, ainsi que quelques annonces. Vous êtes prêts? C'est parti pour commencer. Mathieu, parle-nous de ta dernière lecture.
Ma dernière lecture, c'est un classique du manga, je vais dire ça comme ça. C'est un manga qui s'appelle Battle Royale, que vous connaissez peut-être, pour l'influence qu'il a eu ensuite sur le genre, en général. Donc c'est un manga qui est tiré d'un roman éponyme, qui a été écrit par Koshun Takami. Et le manga est dessiné par Masayuki Taguchi, et il a été publié entre 2000 et 2005 au Japon. Et en France, il est édité par Soleil Manga en 15 tomes. Donc rapidement, l'histoire, c'est quoi? C'est très simple, en fait. Dans la République de l'Est, il y a un État totalitaire. Il y a une loi qui s'appelle la loi Battle Royale qui est votée afin de contenir la potentielle violence des jeunes. Et le principe est assez simple. Tous les ans, une classe de 3e de 42 élèves est envoyée sur une île pour s'entretuer. Et un seul en sortira vivant. Donc rapidement, je vous présente les personnages principaux. Donc il y a un type qui s'appelle Shuya Nanahara, qui est un optimiste, qui possède une ardeur incommensurable. On a Shinji Mimura, qui est une sorte de génie, qui n'est jamais à court de solution, mais qui a des problèmes, on va dire, au niveau des émotions. On a Mitsuko Soma, qui est une sorte de nymphomane égoïste un peu folle, qu'on va adorer détester pendant toute la série. On a un type qui s'appelle Hiroki Sugimura, qui en gros fait des arts martiaux. Et ensuite, il nous reste deux personnages, non, trois en fait. Noriko Nakagawa, qui est, on va dire, le personnage naïf et gentil de toute la série. On a Shugo Kawada, qui est une sorte de brutasse, mais qui est gentil. Et on a, on va dire, une sorte de grand méchant qui s'appelle Kazuyo Kiriyama, qui est un être parfait, mais qui n'a pas de cœur, bien sûr. Voilà. Et donc, pour savoir qui survivra, vous le lire en lisant Battle Royale. Donc, rapidement, pour dire ce que j'en ai pensé, bon, moi, j'ai adoré. Ils le savent autour de la table que j'ai adoré. Je trouvais ça incroyable. Bon, par contre, il ne faut pas s'attendre à un roman de Proust ou un truc où votre cerveau va grossir. C'est de la violence, c'est du sexe, c'est des gens qui meurent. Arrête de rigoler. C'est vraiment trop bien. Et donc, je vous conseille vraiment de le lire, mais encore une fois, pas pour devenir plus intelligent, juste pour... vous êtes fatigué, vous prenez le livre, vous vous impliquez dans l'histoire, et vous allez adorer, voilà. Est-ce que vous allez le lire?
Bah, en vrai, oui, pourquoi pas. J'en avais déjà entendu parler, mais là, ça m'a vraiment donné envie.
Oh, le menteur.
Bah, écoute, moi, j'en avais déjà entendu parler aussi. Honnêtement, c'est bien parce que c'est toi qui le propose que je vais le lire, parce que c'est vrai que... Le truc, ouais, c'est hyper violent, la brutasse, ils ont pas de personnalité à part un trait de personnalité, du sexe, non. C'est vrai que là, comme ça, j'avoue que... Bon, mais vu que c'est toi qui propose, je le lirai peut-être. Bah, ouais.
Je suis pas un menteur. En gros, moi, j'ai pas trouvé ça que c'était incroyablement original ni incroyablement subtil. C'est juste que, bah, en fait, il y a tellement de retournements de situation, c'est tellement bien dessiné que... Pff, enfin, je sais pas, genre, c'est vraiment trop bien quand tu le lis, mais... En vrai, c'est pas incroyable au niveau du scénario. J'ai vu des critiques où même ils disaient que ça s'étendait un peu en longueur, qu'il y avait des scènes qui étaient inutiles. Mais à la fin, t'es comme... Enfin, bon, la fin est pas incroyable, mais tout ce qui est entre le début et la fin est génial.
Donc au final, t'as des éléments qui te font oublier les défauts, on va dire.
Ouais, les trucs qui sont pas bien.
Les trucs qui sont pas bien.
Non, mais en particulier, les deux personnages principaux... De toute façon, c'est, on va dire, la rengaine des mangas, quoi. Ils sont idéalistes et ça marche, alors que c'est pas censé marcher. Voilà.
D'accord.
Voilà, très bien.
Ok, je vois. Eh ben, merci Mathieu pour cette petite critique de Battle Royale. Alexandre, tu voulais nous parler d'un roman?
Oui, moi je voulais parler d'une de mes dernières lectures, c'est La Place par Annie Ernaux. Donc Annie Ernaux, dont vous avez peut-être entendu parler en 2022 parce qu'elle a été nommée prix Nobel de littérature. Elle est française, Cocorico. Donc c'est un livre qu'elle avait sorti il y a vraiment très longtemps, c'est-à-dire en 1983. Et elle a été récompensée pour ce livre seulement en 2022. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire parce qu'il était court à lire, donc ça m'a bien aidé à me remettre dans les romans. C'est un roman autobiographique donc, qui raconte donc, sa vie, la vie de ses parents, qui montre aussi la fracture sociale entre elle, qui du coup a fait des études et est devenue universitaire, et ses parents, qui sont du coup des commerçants et qui sont des anciens ouvriers, donc qui ont vécu dans des... qui ont vécu une vie complètement différente d'elle et dans des milieux sociaux très différents. Et dans ce livre, en fait, on suit sa vie et la vie de ses parents, mais sans qu'elle soit romantisée. Donc elle a décidé, dès le début, elle fait le postulat et elle s'engage auprès du lecteur à vraiment représenter ça fidèlement, sans essayer de rendre attractif ou de rendre belle l'histoire, sans essayer de romantiser les difficultés. Et donc c'est vraiment intéressant d'avoir un témoignage honnête dessus et de découvrir en profondeur des personnages qui sont finalement très communs, auxquels beaucoup de monde peuvent s'identifier. Et après avoir lu ce livre, on peut aussi continuer sur La Honte, qui est donc une sorte de suite, mais une autre histoire qui parle aussi du coup de ses parents. Donc on continue de suivre les mêmes personnages, mais qu'on connaît déjà et dont on connaît déjà le caractère, même si c'est une intrigue différente. Et encore une fois, une histoire vraie.
Ok, d'accord. Bah, je trouve ça super intéressant. Moi, je connais l'autrice que de nom, du coup. Genre, j'ai jamais lu quoi que ce soit et tout. Mais je savais pas qu'on pouvait être récompensé aussi longtemps après avoir écrit un livre, quand même. Je savais pas du tout que ça se faisait. Mais en tout cas, je trouve que ça a l'air très intéressant, l'histoire, et comment ça a l'air d'être foutu, donc je le lirai, peut-être.
Et l'autre avantage, c'est que le livre est très court. Il peut se lire en quelques heures seulement. Et parce qu'il y a assez peu de pages, et il est trouvable en librairie pour vraiment pas cher. Moi, je l'ai trouvé pour 3 euros.
Ok.
Donc ça dépend de l'édition, mais c'est très accessible.
Et tu l'as pas trouvé trop court, du coup ?
Non, parce qu'en fait, ça me permettait justement de lire le livre en entier, d'en profiter, et ensuite de lire la suite avec d'autres histoires. Mmh. Et justement, c'est aussi ce qu'elle dit quand elle dit qu'elle veut représenter fidèlement son histoire, c'est qu'elle n'essaye pas de le romantiser, de rajouter des mots pour dire plus de choses, pour complexifier ou pour donner plus d'impression. Non, elle va le raconter plus fidèlement, donc en passant par utiliser moins de mots.
Ok, je vois. Donc elle essaie peut-être plus d'aller à l'essentiel au final.
Oui. Okay. Et juste pour repréciser, elle a eu le prix Nobel de littérature, c'est pas forcément spécifiquement pour ce livre, c'est pour l'ensemble de son œuvre, mais c'est possiblement son livre le plus connu.
D'accord.
Je dois parler ?
Bah si t'as envie de parler, dis quelque chose.
Moi j'ai pas grand chose à dire.
D'accord. Ah,
oui. J'ai pas grand chose à dire. Non, en vrai, ça m'intéresse pas.
Non, je suis désolé. C'est pas grave.
Mais toi qui lis Proust, ça ne t'intéresse
pas. Alors attendez, non, on va pas partir là-dessus. Non, lisez Proust, voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire.
D'accord, mais toi qui aimes bien... Toi qui nous parles souvent de littérature de roman, parce que Mathieu aime la bonne littérature de roman, pourquoi tu ne veux pas lire Annie Ernaux ?
C'est dingue que ça. Non, en vrai, moi je me remets dans la littérature, on va dire. Et bon, j'ai peut-être pas choisi le bon pour me remettre dans la littérature, parce que j'ai choisi Proust. Mais là, comment dire ? On va dire que je prends mon temps, je ne me force pas pour lire des choses. Et le synopsis m'a pas forcément ne me donne pas forcément une énorme envie de le lire. Donc bon, je vais déjà me concentrer sur Proust que j'arrive pas à finir. Et après, on verra la suite.
Merci pour ton avis. Maintenant, on va passer à ma dernière lecture. Du coup, c'est X, un manga écrit par le collectif d'autrices Clamp au début des années 90. Donc l'histoire commence quand Kamui, un jeune homme de 16 ans, revient dans sa ville natale après 6 ans d'absence inexpliquée. Mais chose étonnante, loin d'être heureux de revoir ses amis d'enfance, Kotori et Fuma, de qui il était pourtant très proche, il les ignore complètement ou bien les méprise au choix. Ajoutons à cela le fait que Kamui ait acquéri un pouvoir surpuissant et semble poursuivi par un certain nombre de personnes. On se retrouve finalement face à un mystère complet, invoquant magie millénaire, destinée, prophétie et tout ce qui va avec. Plusieurs choses m'ont particulièrement plu dans ce manga, à commencer par les dessins, qui sont absolument magnifiques. Je n'exagère absolument pas. L'ambiance est très onirique, c'est aussi dû au fait que je pense qu'environ 50% de l'histoire est composée de rêves, étant donné que certains personnages ont le pouvoir de voyager dans les rêves. Ça crée une vraie ambiance, et tous ces éléments-là, je trouve que ça nous transporte vraiment, et l'histoire se passe parfois complètement de mots pendant plusieurs pages, voire chapitres, je sais pas trop, il n'y a aucun mot, et je trouve ça très bien. Autre chose aussi, les sentiments et les relations entre les personnages sont centrales, et je sais pas pour vous, mais moi, l'intelligence émotionnelle, c'est ça qui me fait vibrer et qui m'intéresse dans un récit, plus que toute autre chose. En plus de tout ça, on a une représentation des relations LGBT, ce qui n'est pas forcément très courant, et ce qui est un gros plus pour moi, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, et la représentation, je trouve ça très bien. Souvent, ça passe par des sous-entendus, mais il faudrait vraiment le faire exprès pour ne pas les comprendre. Par contre... Faut pas se méprendre non plus, c'est pas un manga de romance, c'est pas un manga tout mignon. Bien que les sentiments restent omniprésents, etc., ça reste un manga dont le thème principal, c'est quand même la fin du monde, et c'est très violent, c'est très trash, c'est un peu gore quand même. Donc faut pas s'attendre à une petite histoire toute gentillette. Mais après avoir parlé des qualités du manga, je dois quand même avouer le défaut principal de l'œuvre, qui est qu'en fait elle a pas de fin, je crois que c'est à cause de problèmes d'éditeur. Elle a jamais été finie, elle sera jamais finie. Et c'est dommage, mais d'un autre côté, je trouve que ça vaut quand même le coup de se pencher dessus, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à en tirer, et ça c'est quand même très intéressant. Et puis j'ai découvert après ma lecture que de nombreuses œuvres de Clamp, du coup le collectif d'autrices qui a écrit X, interagissent toutes entre elles. Elles se passent toutes dans le même monde, du coup, en lire une, en fait, c'est rentrer dans l'univers des autres, et j'ai trouvé que ça c'était vraiment bien. Donc voilà, en résumé, X, manga écrit par Clamp, publié chez Tonkam, 18 tomes, il faut le lire, c'est très très bien.
On l'a à la BD Bedeck ?
Oui, on l'a à la BD Bedeck, totalement. Bon. Du coup, si vous souhaitez...
Je veux dire quelque chose.
Le lire, l'emprunter, vous pouvez. Oui, Mathieu,
bon, qu'est-ce j'ai que... pas lu le livre.
Oui, je sais
donc
bien.
Je peux pas critiquer, mais en vrai, les dessins sont peut-être beaux, mais il faut quand même... Enfin, vu que c'est sorti dans les années 90, c'est un style assez ancien. Je pense, en fait, le truc, c'est que quand tu penses à des dessins beaux, en ce moment, tu penses au style actuel. Tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Mm-hmm.
Et c'est pas le style actuel du tout.
Mais t'as regardé un petit peu les dessins de... Parce que je t'assure ouais, je que les dessins... Ils font pas vie, enfin,
ah ouais.
Mais je trouve que vraiment les dessins, je les trouve magnifiques. C'est un vrai travail d'artiste, quoi.
Et oui, c'est vrai que c'est très beau, mais c'est juste que c'est un style un peu ancien. Mais bon, oui, avec les gros yeux et tout.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est aussi peut-être un style, le style des autrices. Et puis, il faut aussi dire que c'est un shoujo. Je sais pas si ça parle à certains parce que c'est un collectif d'autrices qui écrivent donc des shoujo. Maintenant, faut pas tout confondre. Shoujo, c'est pas que des mangas de romance, gnangnan, school life, machin. C'est vraiment pas que ça, parce que là, pour le coup, l'histoire, c'est pas vraiment ça. On pourrait croire que c'est ça au début, c'est vrai, et en fait, rien à voir. Comme je l'ai dit, c'est très gore, très trash, très violent, mais les uns sont très
beaux. C'est un shoujo.
C'est un shoujo.
Ah bon ?
Et shoujo, ça peut être trash et violent. Shoujo, ça veut juste dire que c'est fait à l'intention de base des filles. C'est prépublié dans des magazines shoujo, mais au final, on s'en fiche des catégories, n'est-ce pas ?
Mmh.
Mmh.
Bon,
ouais.
Ah, passons à autre chose.
Ouais, c'est ça. Allez, t'as pas l'air très convaincu. Donc, quelques faits sur l'actualité littéraire maintenant. Alexandre, qu'est-ce que tu nous as trouvé d'intéressant ?
Eh bien, moi, c'est l'auteur de Hunter x Hunter, donc Yoshihiro Togashi, qui lundi a donné une interview dans laquelle il a présenté 4 scénarios pour Hunter x Hunter, et 4 scénarios donc, qui nous révèlent la fin de Hunter x Hunter. Donc, évidemment, je vais pas vous spoil, ne vous en faites pas. Mais donc, ce qu'il a dit, c'est qu'il avait 4 scénarios en tête. Le scénario A, B, C et D. Donc le A satisferait 50% des lecteurs et décevrait 20% des lecteurs. Le B ferait à peu près 50-50. Le C ne plairait que à 10% des lecteurs et décevrait du coup beaucoup plus de monde, même si c'était son scénario préféré. Et le D, il ne nous a pas donné de statistiques, mais il a préféré nous le livrer. Et donc, il nous explique en fait que raconterait le dernier chapitre de Hunter x Hunter si c'était ce scénario qui était choisi. Et pourquoi est-ce qu'il a décidé de nous délivrer ce scénario ? C'est parce qu'il nous a dit que s'il décédait avant d'avoir pu terminer Hunter x Hunter, au moins les lecteurs pourraient se contenter d'une fin et avoir une des fins. Donc, on espère que c'est pas cette fin qui sera choisie, parce que ça voudrait dire qu'il décède avant la fin du manga. Maintenant, il a aussi eu des gros problèmes de santé, notamment des problèmes de dos, qui l'ont obligé à faire une pause de 2 ans. Et 2 ans, deux ans de pause dans l'apparition d'un manga, c'est un très long délai dont certains pensaient que Hunter x Hunter n'allait pas continuer. Et finalement, il a pu recommencer et il recommence à dessiner et à avancer petit à petit. Et apparemment, c'est vraiment très bien.
Ok, d'accord. Mathieu, des réactions ?
Bah en fait, je pensais que je connaissais pas la fin. Mais en fait, je l'ai lu, en fait. Et c'est vrai qu'elle a éclaté, voilà. Non, je plaisante, Non, mais c'est... Ouais, je sais pas. En vrai...
Après, il faut retenir que cette fin qu'il a annoncée, c'est pas forcément la fin qui va être choisie. C'est la fin qu'il a annoncée, entre guillemets, si jamais il pouvait pas finir son manga, qu'il pouvait pas faire autrement. Donc on espère tous, collectivement, qu'il... ce sera pas comme ça, parce qu'on espère qu'il va rester en vie longtemps et tout.
Après, c'était à moitié une blague. Mais bon, de toute façon, tous ceux qui aiment Hunter x Hunter savent que... Bon, il s'est embarqué dans quelque chose de tellement énorme que même s'il meurt pas, la fin, je pense qu'on l'aura jamais.
Ouais, ça je sais pas. Puis après, il y a aussi le fait, on peut parler de la qualité entre guillemets des derniers chapitres qui sortent où il y a énormément d'écriture,
c'est beaucoup
de dessins. Mais je sais pas si c'est trop bien. Personnellement, j'ai pas lu. J'ai juste entendu dire ça et que les gens étaient un peu saoulés. Non, j'ai pas lu. J'en suis pas là moi dans le manga. Je suis pas assez avancé.
Moi, je suis juste à jour sur l'animé.
Ouais, pareil.
Mais, oh là là.
J'en suis genre tome 16-17 du manga, voilà, mais j'ai vu tout l'anime.
Écoutez-moi bien, avant de lire Clamp et tout, lisez la fin d'Hunter x Hunter.
Mais Clamp, c'est les autrices déjà, le manga il s'appelle X, donc ouais, super Mathieu, je vois que t'écoutes ce que je dis, c'est cool. Yes.
Non, en vrai, moi je trouve que le dernier arc, donc bien que, effectivement il y a plein de trucs où ils disent, ouais, il y a plein de textes, machin, c'est long à lire, moi je trouve que c'est le meilleur arc du manga, Donc n'hésitez pas à lire, c'est juste que c'est extrêmement long, on va dire, extrêmement lent, et qu'on n'aura jamais la fin, probablement, voilà, on va pas se mentir.
Ok, bah, formidable. Écoute, on espère quand même avoir la fin un jour, ce serait quand même pas mal.
Et simplement pour conclure, ouais. Si vous avez envie de découvrir la fin D, donc la fin qu'il a révélée, vous pouvez la trouver sur internet en tapant Hunter x Hunter fin, et vous trouverez plein d'articles qui la présentent, ou qui la traduisent en français ou en anglais. Donc n'hésitez pas, mais on va pas vous la révéler ici pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre.
Ouais, exactement. Sinon, pour l'autre petite actualité, je voulais parler de la sortie du tome 2 de Lou Sonata, qui est donc Sonata, qui est la saison 2 de Lou, la BD dessinée par Julien Nel, et qui raconte donc la vie de Lou, son évolution. Il me semble qu'au début de l'histoire, elle est au début du collège, et puis de tome en tome, en fait, elle évolue. Et du coup, Sonata, c'est la saison 2, là, c'est le tome 2, la saison 2 de Lou qui est sortie, il me semble, le 15 novembre. Donc n'hésitez pas à aller le lire. En plus, c'est vrai que dans Lou, je trouve que j'ai pas tout lu, c'est vrai. Mais je trouve qu'il y a une... comment dire ? Les dessins, encore une fois, sont très beaux. Une personnalité graphique assez intéressante, à mon avis.
Bon, moi, je connais pas du tout Lou, hein, donc je vais rien dire.
Alors que moi, j'ai lu tous les tomes de Lou, qui sont vraiment... très bien.
Carmenter.
En fait, non, c'est très très vrai.
Okay.
C'est vraiment trop bien. Les décors évoluent, les personnages, on s'y attache vraiment et on les voit évoluer dans leur vie et on voit Lou grandir.
Ouais.
Quand on voit les premiers tomes de Lou, elle a, je sais pas, 13-14 ans et du coup des histoires d'enfants de 13-14 ans et on la voit évoluer au fur et à mesure. Là, actuellement, elle est adulte, elle voyage un peu dans le monde et elle vit de nouvelles aventures finalement.
Ouais, c'est ça.
Et donc, c'est vraiment. On la voit grandir, on voit aussi son entourage évoluer, ses relations avec ses amis évoluer, et c'est toujours magnifique, à la fois dans leur appartement au début, maintenant, ou selon les lieux où elle est, c'est toujours des salles qui sont très remplies d'objets, mais à chaque fois très esthétiques, et qui donnent vraiment une ambiance à l'endroit qui semble à la fois réel, parce que ça semble réaliste, mais à la fois, il y a tellement de choses, et c'est tellement beau, et c'est tellement imprégné d'une certaine ambiance que ça semble complètement faux. Donc c'est vraiment intéressant et très très beau à lire.
Est-ce qu'on les a à la BD Bedeck ?
On les a à la BD Bedeck, totalement. Donc vous pouvez venir les lire, les emprunter. On les a tous normalement et on aura bientôt du coup le dernier tome qu'on va certainement obtenir. Bientôt, on va maintenant passer à la lecture de deux critiques littéraires écrites dans le Fil, donc le journal de l'UTC, écrit par deux de nos membres. Vous pourrez retrouver les articles complets en version numérique sur le site du Fil.
C'est asos.utc.fr/lefil, L-E-F-I-L.
Ok.
Bon, du coup, moi, c'est la critique d'un roman graphique qui s'appelle Malgré tout, de Jordi Lafèbre. Parfois, se prélasser dans la chaleur d'un petit rêve éclaircit la lassitude des journées malheureuses. Alors pourquoi ne pas s'autoriser une échappatoire éphémère et tenter de s'oublier le temps d'une demi-heure dans les couleurs réconfortantes d'un roman graphique fleur bleue et accepter une simplicité innocente et accueillante pour vivre immobile une complicité lointaine. À travers 150 pages, Jordi Lafèbre nous propose une plongée à contre-courant de l'écoulement du temps pour retrouver les douceurs d'une retrouvaille tardive entre deux amants dont l'histoire aura choisi de tester la patience. Ellipse après ellipse, les discussions anodines et la tendresse des sourires nous reviennent plein de sens car, à mesure que s'évapore le poids des années, témoin toute une vie d'un récit à deux séparés par les frontières de la Providence, les signes sibyllins d'affection des premières pages nous apparaissent familiers et alors que se confondent épilogue et première rencontre, notre esprit boucle l'histoire pour revoir en un coup et de l'intérieur ce qui fait un désir qui défie des décennies d'errance. Sans mentir, Malgré tout est une romance sans prétention. Une histoire simple, cousue de fil blanc avec ses personnages mièvrement bienveillants et ses enjeux sans importance, dont les vertus ne viennent pas de son originalité ou de sa complexité, mais de l'accord entre des personnages attachants et des traits précis aux couleurs chaudes. C'est bête, mais goûter à une tendresse naïve est réconfortant et peut parfois s'avérer plus précieux que la subtilité et l'intelligence des grandes œuvres. Car malgré tout, ce n'est finalement pas grand-chose, mais c'est déjà bien assez. Une petite aventure pour nous dire qu'apprendre à vivre, c'est aussi apprendre à conserver ses vieux rêves, pour garder en soi une pointe de fantaisie que le temps sera peut-être réalisé. Donc je vous conseille vraiment de le lire, parce que c'est moi qui ai écrit cette critique, et c'est vraiment bien. Et voilà, la BD Bedeck, donc ouais. Lisez-le.
Ok, bah, et je tiens à dire que c'est très très bien écrit, d'ailleurs.
Oui, j'ai pris tellement de temps.
Mais ça s'entend, mais c'est super bien, franchement, c'est super bien écrit, et ça donne vraiment envie de le lire, et je le lirai peut-être, encore une fois. Alexandre, un avis, la suite peut-être, je ne sais pas.
Que j'avais aussi écrit il y a un moment une critique sur Malgré tout.
Non, c'est pas vrai.
C'est complètement vrai. Et du coup, je valide complètement ce qu'a dit Mathieu. C'est un de mes livres préférés de la BD Bedeck. Je vous invite tous à le lire. C'est à la fois très doux, très beau et beaucoup plus d'adjectifs que Mathieu nous a précisé tout à l'heure. Mais vraiment, lisez-le. C'est une magnifique histoire et très bien construite.
D'accord, bah du coup je suis la seule à pas l'avoir lu, je lirai du coup, et je savais pas du tout que tu l'avais lu aussi. Ok, bah en tout cas c'est bien, ça fait deux connaisseurs de malgré tout, c'est pas mal.
Moi je vais vous présenter, enfin je vais vous lire la critique de One Piece qui a été écrite par Camille, donc aussi une membre de la BD Bedeck. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le, je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tels furent les derniers mots de Goldie Roger, le roi des pirates. Ces mots lancèrent l'avènement d'une nouvelle ère, celle de la piraterie. Voyant de nombreux bateaux, autant voguer que sombrer sur les cinq océans de ce monde, tous sont à la recherche du fameux One Piece, le dernier trésor de Roger. Synonyme de fortune, de gloire et de pouvoir, en bref, tout ce que tout pirate qui se respecte a un jour cherché. Bien décidé à devenir le nouveau roi des pirates et à trouver le One Piece, Luffy, jeune pirate au corps de caoutchouc, après avoir mangé un fruit du démon, s'engage sur cette voie dangereuse. Pour cela, lui et son équipage devront s'engager dans le plus dangereux des océans, Grand Line. Ils affronteront de nombreux dangers, et traverseront d'île en île des paysages divers et variés. One Piece ne se présente plus. C'est un classique des shonen, rythmé par ses combats épiques et l'aventure vécue par les protagonistes depuis maintenant plus de 25 ans. Les dessins aux traits simples réussissent à transmettre les émotions et l'énergie des personnages avec efficacité. L'aventure est garantie avec l'équipage du chapeau de paille. Alors n'attendez plus et venez découvrir ou redécouvrir cette série culte à la BD Bedeck.
Et bah moi je trouve que ça donne envie. Moi j'ai pas tout lu de One Piece. J'ai lu que les 15-16 premiers tomes. C'est en cours, mais les études, tout ça, je n'ai pas le temps.
La menteuse.
Mais arrête, comment ça je suis une menteuse ? Vas-y, exprime-toi, t'as commencé, tu finis, comment ça je suis une menteuse ?
Non, moi je vais rien dire. Vas-y, continue.
Ben non, tu vas dire.
En vrai, on attend qu'on étudie un de One Piece. Lisez One Piece, c'est incroyable. Mais le problème, c'est qu'à la BD, qu'en vrai, ils sont souvent empruntés, je crois.
Bah oui, c'est quand même très demandé. Du coup, c'est vrai qu'ils sont beaucoup empruntés. Non, mais pour de vrai, en ce moment, j'ai pas trop eu le temps parce que je cours partout en ce moment. Je suis une femme très demandée. Et quoi qu'on dise, Mathieu. Un avis sinon sur One Piece plutôt que de se moquer de moi là comme ça ?
Oh bah One Piece, moi j'adore. J'ai lu depuis que je suis tout petit, c'est un de mes premiers mangas, je pense. Donc je lis tous les scans. Oula. Bon, je lis les scans, mais je lis aussi.
Des scans Lego sur des
sites. Oui, bien
Lego,
sûr.
Ils payent pour lire les scans.
Bon, c'est pas bien. Mais bon, je lis les scans. Je trouve ça incroyable. Alors, bon, pour ceux qui savent, j'ai un peu été déçu de la fin du dernier arc. Mais bon, ça ne regarde que moi finalement. Et je trouve que le nouveau est très bien. Donc, continuez, c'est génial. On n'est plus si loin de la fin que ça en vrai. Donc n'hésitez pas à commencer maintenant parce que si vous. Enfin, je veux dire, il faut rattraper le train. Mm-hmm. C'est ça l'expression, je crois. Voilà.
Le train en marche.
Moi, je suis parfaitement d'accord avec Mathieu. Le nouvel arc actuellement est magnifique. Ça fait à peu près un an qu'on est dedans. Et on voit des flashbacks qu'on attend depuis super longtemps. C'est vraiment trop cool. Et One Piece, c'est la plus grande aventure manga qui existe actuellement et qui existe aussi depuis 20 ans. Et je pense que personne n'a envie de se faire spoil qu'est-ce que c'est que le One Piece. Donc vous avez intérêt à rattraper les 100 tomes ou alors à regarder l'animé. Il y a seulement 1020 épisodes.
Moi je suis pas trop d'accord avec ça, mais l'animé en fait, le problème c'est que si vous regardez des animés en ce moment, la qualité des animés est tellement énorme par rapport aux premiers épisodes de One Piece que ça va vous faire un énorme décalage, je pense. Et pour One Piece en général aussi, pour dire, pour ceux qui ont peur du nombre de tomes énorme, en fait, c'est la force du titre, hein, le nombre de tomes. Ça veut dire que vous n'allez jamais trouver une autre œuvre ou un autre un roman ou un film. Ça ne va jamais vous procurer des émotions comme One Piece va le faire du fait du nombre de tomes de One Piece, justement. Donc c'est pour ça qu'il faut le dire, en fait. C'est parce qu'il y a beaucoup de tomes aussi.
Et le fait qu'il y ait beaucoup de tomes, c'est aussi parce que c'est un univers complet, extrêmement développé et très cohérent, où il y a des références partout, des foreshadowing. C'est vraiment quelque chose qui est bien construit de A à Z. Ah oui, et qu'est-ce que c'est que des foreshadowing ? C'est quand, plus tôt dans l'œuvre, on nous introduisait des éléments qui nous seront expliqués que plus tard. Donc au début, on va se dire, ah oui, ok, une information. Et plus tard, on va faire, ah mais c'est pour ça qu'on nous a dit ça. Et c'est trop stylé quand on s'en rend compte, parce qu'on se dit, ah mais en fait, il avait tout prévu depuis 20 ans. C'est un univers complet, avec une carte détaillée, avec de la géopolitique, avec énormément de choses comme ça. Et plein de valeurs dans le manga, donc c'est vraiment super chouette.
Ouais. Lisez-le, voilà.
Ok, bah c'est une belle conclusion, et, du coup, oui
ouais. Et juste pour conclure sur la conclusion, c'est aussi le manga qui est le plus lu actuellement, qui bat des records de vente à chaque fois, Donc, et en fait, tout le monde en parle à chaque sortie de chapitre. Tous les gens qui lisent One Piece en parlent entre eux en disant « Oh, j'ai beaucoup aimé ce chapitre, t'en as pensé quoi? Est-ce que tu as compris ça? C'est quoi ta théorie sur ça ?» Parce que vu que l'univers est très complet, c'est possible de faire des théories et c'est possible de discuter parce que vu qu'il y a des révélations très régulières, on peut se dire « Oh, j'ai... » Enfin, on peut réagir sur nos émotions dessus et ça permet donc de discuter avec des gens et de donner notre avis. C'est aussi un super moyen d'échanger et de partager ce centre d'intérêt.
Bah merci à Camille qui a quand même écrit la critique et merci à Mathieu pour ta critique aussi. On peut maintenant passer au cœur de cette émission, le sport, comme annoncé au début. Mais c'est vrai que ce thème peut paraître étonnant car il me semble quand même qu'il y a peu d'œuvres littéraires vraiment axées sur le sport, excepté pour les mangas où on peut dire que c'est un genre à part entière peut-être.
Absolument.
Je sais pas en fait.
Pour moi, oui, c'est un genre à part entière. Enfin... Il y a quand même des mangas où on sait que c'est des mangas de sport.
Ouais.
Quand on va regarder Inazuma Eleven, on le regarde pour le sport, pour l'histoire qui est racontée derrière, mais on sait que c'est la thématique principale.
Ouais, totalement. Et puis c'est vrai que le truc du sport, on le retrouve pas que dans certains types de mangas, que dans les shonen. Il y a des shoujo de sport, il y a des shonen de sport, etc. Du coup, c'est vraiment un truc un peu transversal, on va dire. Mais c'est vrai que je trouve que dans les BD, les romans, on retrouve pas beaucoup de mentions faites.
En fait, dans les BD, c'est surtout des BD, je viens de réfléchir, c'est surtout des BD d'humour, genre des trucs comme ça.
Ouais. Avec,
bah ouais, je pense au rugby, je veux dire, au foot, des trucs comme ça. C'est... Même Tour de France, il y avait des BD, je crois, sur le Tour de France, mais c'est plutôt des... C'est pas des histoires, quoi.
C'est des gags.
C'est plus des gags, ouais.
Ok, ouais, je vois. D'accord. On peut peut-être se demander aussi pourquoi est-ce qu'on retrouve autant de mangas autour du sport. Parce que, je sais pas, est-ce que c'est parce que le Japon est un pays particulièrement... sportif ou connu ouais. Pour le sport.
Du coup, j'ai fait quelques recherches parce que, bah, en fait, on savait, enfin moi en tout cas, je savais pas du tout d'où ça venait. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, on va dire, l'émergence du sport au Japon est très liée à celle du manga. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des séries qui étaient basées donc sur les thèmes de cette époque-là, qui étaient les samouraïs, les militaires ou les choses épiques en général, ont été, comment dire, un peu interdites par les Américains ou juste évitées par les Japonais pour pas repenser au temps de guerre qui venait d'arriver. Pour pallier à ces thèmes, la thématique du sport s'est énormément démocratisée parce que sans être pareil, il y a quand même beaucoup de valeurs et beaucoup de confrontations qu'on peut retrouver dans le sport d'une manière moins violente que qu'entre des samouraïs ou qu'entre des militaires par exemple. Donc c'est à cette époque-là en tout cas que les récits sportifs se sont beaucoup développés, notamment dans le manga mais en fait dans à peu près toutes les publications de l'époque. Ce que j'ai noté aussi, c'est que c'est à partir des Jeux Olympiques de 1964 à Tokyo. C'est cet événement en fait, qui marque le véritable premier boom des mangas de sport, notamment du fait de la victoire de l'équipe féminine de volley à l'apparition de la discipline pendant les Jeux Olympiques. Et donc ça va notamment engranger énormément de séries de volley, dont une série incontournable qui s'appelle Attaku No. 1 de Chikako Urano, mais qui est beaucoup plus connue en France sous son nom français qui est Jeanne et Serge. Qui aussi, il faut savoir que c'est le premier dessin animé de sport et il est sorti en 1968, au Japon et 20 ans plus tard quasiment en France. Et donc c'est un thème qu'on va aborder ensuite, mais c'est une série qui va énormément influencer le domaine du volley en général, que ce soit au Japon ou en France. Donc en fait, justement, on arrive au premier thème, donc il y a une influence de la fiction sur la réalité et inversement. Donc par exemple, l'autre cas que j'ai trouvé, c'est celui par exemple de Captain Tsubasa, qui est un manga de sport, qui est sorti dans les années 1980 au Japon. Et en fait, c'est un manga qui a énormément influencé la démocratisation du foot au Japon, qui était un sport très mineur à cette époque-là. Mais plus actuellement, je pense que ça vous dira beaucoup plus, IQ, je pense vraiment que ça a poussé beaucoup de gens à soit regarder du volley, soit se mettre à jouer au volley, etc. Et donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, ou s'il y a peut-être un manga de sport qui vous a poussé à faire un sport, qui vous a donné envie de faire un sport, qui vous a poussé à suivre un sport, quelque chose comme ça, je ne sais pas.
Moi, si, ça m'est déjà arrivé. Alors, j'ai jamais sauté le pas, vraiment, faire un sport. Mais j'ai déjà eu... Alors, j'ai lu tout Haikyuu. J'ai adoré Haikyuu. J'ai eu très envie de faire du volley. J'ai jamais fait de volley, mais j'ai eu très, très envie de le faire. Pareil, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu Slam Dunk. Alors, pour le coup, si, ça m'a un peu donné envie de faire du basket. Pas forcément d'en faire, mais au moins, ça m'a donné des connaissances en basket. Je pouvais un petit peu en parler autour de moi, un peu plus comprendre les tenants et les aboutissants.
Dis que c'est Slam Dunk, du coup.
Slam Dunk, du coup, c'est un manga de Takehiko Inoue qui l'a commencé à écrire au début des années 90 et qui est un manga tourné autour du basket où on suit l'évolution de Hanamichi Sakuragi, un jeune homme en seconde, qui choisit en fait de commencer le basket pour séduire une fille, basiquement. Et ça raconte son évolution dans ce sport et comment finalement il va tomber amoureux de ce sport.
C'est vraiment, vraiment cool. Le plot est hyper simple. De toute façon, on va reprendre sur la structure des mangas de sport après. Les plots sont toujours extrêmement simples, mais c'est pas ça l'intérêt, des mangas de sport en général. En tout cas, Slam Dunk, c'est vraiment très bien. Tu l'as lu ou pas, Alexandre?
Alors, j'ai lu le début, peut-être les 5 premiers tomes quand j'étais au lycée, parce que j'avais pas accès au suivant.
Ah, ok.
Mais par contre, j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que c'était assez comique la façon dont il s'est lancé dans le basket juste pour séduire une fille.
Exactement.
Maintenant, l'histoire après se développe bien plus et devient plus complète.
Exactement, c'est vraiment pas que ça. Outre ça, Slam Dunk, c'est un manga que je trouve vraiment très drôle. Ce qui n'est pas le cas de tous les mangas. Des fois, c'est un peu marrant.
Justement, on en parlera après. Il y a plein de styles de mangas sport différents finalement. Est-ce qu'il y a un manga, toi, de sport qui t'a donné envie de faire un sport en particulier ou de te lancer dans une activité physique? J'en sais rien.
Moi, ce qui, à un moment, est vraiment impressionné, donc c'était pas le manga, c'était plus l'animé, mais ça revient au même, c'est Yuri on Ice qui faisait des chorégraphies de patins à glace vraiment splendides. Et bon, après, trouver une patinoire en Ardèche, c'était un peu plus compliqué.
Donc, juste Yuri on Ice, ça parle de quoi exactement?
Donc, Yuri on Ice, c'est en gros, c'est un manga sur le patinage artistique. Et donc, on suit Yuri qui est un personnage, enfin, qui va du coup faire du patin à glace. Et faire des concours. Mais dans l'animé, c'est vraiment magnifique parce qu'il y a de sublimes bandes-sons, des belles musiques, et du coup, très bien chorégraphié pour faire de la danse par-dessus. Enfin, du coup, pas vraiment de la danse, du patinage artistique, mais c'est aussi beau que de la danse.
Ok, d'accord, très bien. Et bah, pour moi, bon, en vrai, il y en a plein, mais j'en reparlerai plus tard. Il y a Ascension, qui est un manga sur l'escalade, bon, qui m'a donné envie de faire de l'escalade. Je fais de l'escalade, mais j'en reparlerai plus tard. Il y a un manga qui s'appelle Ikaru no Go, c'est un manga sur le go. Pareil, j'ai essayé d'en faire un peu. Mais le go, c'est extrêmement compliqué, donc puis surtout en France.
Qu'est-ce que c'est le go?
Le go, c'est c'est le jeu d'échecs asiatique, on va appeler ça comme ça. Je vais résumer les règles en 2 secondes. On a un goban qui a un plateau qui fait, je crois, 19 x 19 cases, donc c'est absolument énorme. Chacun joue une couleur différente, donc soit blanche, soit noire. Les pièces sont toutes les mêmes, c'est des. On va dire que c'est des ronds, je vais appeler ça comme ça. Et le but, c'est de posséder le plus de territoire à la fin. Mais bon, je reparlerai des Ikaru no Go plus tard. Là, ce dont on peut parler, c'est peut-être du fait qu'il y a beaucoup de mangas de sport qui suivent finalement, le même fil conducteur. Donc pour ceux qui connaissent, vous allez, je pense, tout de suite reconnaître les œuvres qui font référence à, on va dire, cette structure. Donc la première chose qui se passe dans un manga de sport, souvent, le héros d'abord qui n'a rien à voir avec le sport, qui ne connaît absolument rien du sport en question, découvre le sport et on découvre à ce moment-là aussi qu'il a un potentiel ou un talent, inné pour souvent une chose très, très particulière de ce sport. Donc par exemple, je pense à Eshield 21. Alors je ne me rappelle plus du nom du héros principal, du personnage principal, je veux dire. C'est un manga à propos de football américain. Et juste le personnage principal, c'est quelqu'un de très petit, de très frêle. Donc on se dit, un mec petit, frêle, qui fait du football américain, c'est un peu bizarre. Bah justement, il ne connaissait absolument pas. Il se retrouve dans le football américain, je ne sais plus pour quelle raison, mais c'est complètement incongru. Et on découvre qu'il a un talent particulier, qui est le fait qu'il court extrêmement vite. Et l'histoire part à partir de ce moment-là. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples, peut-être.
Alors, moi, c'est du coup un autre exemple de début de scénario. C'est le protagoniste qui est fort à un sport, donc par exemple au collège, mais son équipe avec lui n'a pas son talent, donc il ne performe pas. Et derrière, quand il passe au lycée, il recompose une nouvelle équipe, et là, ils vont pouvoir mieux performer et évoluer. Il y a plusieurs exemples. Et du coup, je veux citer aussi comme manga Blue Lock, donc Blue Lock dont l'anime est en train de sortir, il me semble. Donc c'est un manga de foot où le Japon n'a pas réussi à performer aux dernières coupes du monde de foot, et donc ils veulent développer un nouvel attaquant. Et ils créent le programme Blue Lock où ils prennent tous les jeunes talents du Japon et ils les mettent dans un centre d'entraînement. Où ils vont évoluer, se faire éliminer au fur et à mesure pour ne garder que les meilleurs et les faire progresser, se dépasser continuellement et s'affronter entre eux pour débloquer leur plein potentiel finalement.
Ouais. Bon, et du coup, pour l'exemple de ton scénario, c'est IQ. IQ, c'est exactement ça. Alors, je crois que le personnage principal s'appelle Hinata, mais il me semble que son équipe n'était pas très forte au collège, mais que lui était complètement passionné et qu'une fois arrivé au lycée en seconde, il va tomber sur une équipe plus forte qui va lui permettre finalement d'atteindre ses rêves. Quoi.
Je trouve que pour le coup, pour IQ, ça se mélange un petit peu entre ce que vous avez dit comme, trope, on va dire, narratif de départ. Parce qu'à la fois, Hinata, c'est vrai qu'il a une équipe au collège qui n'est pas très forte et pas très passionnée, mais que lui, il est par contre très passionné, etc. Mais lui, en même temps, Hinata n'est pas très fort non plus, honnêtement. Il a les bases du volet, mais il n'est pas très doué. Mais par contre, c'est vrai qu'il a quand même ce potentiel. Il me semble qu'il a une détente gigantesque qui s'y permet de compenser avec sa petite taille et de sauter très haut. Et c'est ça qu'il a un vrai potentiel, en plus d'avoir une grande motivation. Du coup, c'est vrai qu'on peut peut-être retrouver aussi des choses un peu entre les deux.
Bon, sur le thème d'AQ, en tout cas, pour continuer sur la structure des mangas de sport, bon, bah, c'est pas très compliqué. Pour qu'un manga de sport fonctionne, il y a toujours une histoire de rival qui arrive dès le début, c'est-à-dire qu'on découvre le talent du personnage principal, on se dit qu'il est extrêmement fort, que tout va bien, il va écraser tout le monde. Et puis juste après, on tombe sur le deuxième personnage principal qui est son rival, et ce qui souvent l'explose complètement. Voilà. Donc dans AQ, je ne me rappelle plus le nom de son rival.
C'est Kageyama. C'est yes. Tobio Kageyama. J'aime beaucoup AQ.
Voilà. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Alors, il doit faire un match contre lui, je pense, au début, un truc comme ça, probablement.
C'est possible. Ah, ça, je ne me rappelle plus.
En tout cas, dans Slam Dunk, je sais que c'est le cas. Il affronte Rukawa, il me semble, et il se fait exploser. Voilà.
Bien sûr qu'il se fait exploser, évidemment.
Donc, Rukawa, c'est le rival du personnage principal. Donc, l'histoire de rival, dans à peu près tous les mangas de sport, vous allez retrouver ça, normalement. Et bah, c'est toujours le truc le plus intéressant. C'est-à-dire que c'est le meilleur allié du personnage principal parce qu'il fait toujours partie de son équipe. Mais c'est aussi son pire ennemi parce qu'il doit absolument chercher à le dépasser.
Exactement. Et puis il y a aussi l'autre type de rival, c'est le rival de l'autre équipe. Souvent on voit que c'est l'une des premières équipes contre lesquelles ils font un match et c'est le rival qui voit un grand potentiel en lui, ce genre de choses.
Bah, t'as un exemple parce que...
Ah, oui, j'ai un exemple, j'ai oublié son nom. C'est dans Slam Dunk, c'est...
Ah oui. En fait,
de manière... Il s'appelle Akira de son prénom et de son nom de famille, je sais plus.
De manière plus générale, en fait, c'est après avoir passé cette première épreuve avec un rival, la découverte d'un rival. Donc au tout début, leur équipe est très forte, ils arrivent à battre plein de gens. Et puis rapidement, en fait, ils ont souvent un match d'entraînement amical. Oui. Et ils tombent sur une autre équipe qui, bizarrement, est très proche de la leur, mais qui sont toujours un peu plus forts qu'eux, en fait.
Ouais.
Et donc, bien sûr, c'est l'histoire de l'équipe rivale qu'ils doivent surmonter, qui les bloque au tout début, mais que dans la suite, ils sont censés battre.
Exactement.
Voilà.
Bah, dans Aikyu, ce serait l'équipe de Josei, il me semble, avec Oikawa dedans. Oikawa Toru, ouais. qui
C'est le rival de Kageyama, il me semble.
C'est plutôt le rival de Kageyama, ouais.
Ouais.
C'est ça. Après, Aikyu, c'est un peu particulier parce que Kageyama, c'est plus qu'un rival, c'est aussi un personnage principal, en fait. Avec Hinata, ils font un peu un tandem, on va dire. Et ça se ressent aussi bien dans les matchs, je trouve, que dans l'histoire. Parce que oui, le personnage principal, c'est évidemment Hinata. Mais Kageyama, il est pas loin derrière. On en connaît quand même beaucoup sur lui, au final. Et on suit son évolution en tant que personnage. Et il n'est pas juste là pour faire grandir Hinata, pas du tout. Et au contraire, Hinata le fait grandir lui aussi. Et ça que je trouve aussi intéressant dans l'histoire.
Et puis, donc après cette première défaite, on va dire ce premier mur contre une équipe, donc il y a un arc d'entraînement. Donc ça, c'est tout le temps pareil, c'est un arc de fou. Il faut penser à tous les entraînements qu'on voit faire les sportifs, c'est la même chose, mais fois 500 millions, avec toujours des trucs un peu bizarres. Genre, par exemple, dans Achille 21, je crois qu'ils traversent les États-Unis en camion, et les mecs sont censés courir derrière le camion en traversant les États-Unis. Enfin, ça n'a aucun sens. Et apparemment, il y a des histoires. C'est un truc hyper dangereux. En plus, ça n'a vraiment aucun sens. C'est en mode, si vous ratez, vous êtes blessé, toute votre carrière est finie pour tout le reste de votre vie, mais vous êtes trop content de le faire. Bref, ça n'a aucun sens. Bien sûr, pour ceux qui aiment peut-être le classique, il y a Hajime no Ippo. Bon, Ippo, bon, même s'il y a des entraînements plus classiques, plus réalistes, il fait des entraînements de malade mental. Donc, pour tous ceux qui connaissent, vous penserez directement au défi. C'est pas un entraînement, mais au premier défi où il doit attraper des feuilles qui tombent d'un arbre. Voilà. Bon, je sais pas si ça existe vraiment, mais moi j'ai trouvé ça assez marrant et honnêtement, je pense que c'est impossible. Mais bon, je sais pas.
Alexandre, t'as peut-être une... moi je pense à Kuroko's Basket, où il y a un des entraînements, il me semble, où en fait ils vont sur une plage et ils s'entraînent à faire du basket, mais sur du sable. Donc ils ont beaucoup moins de détente et beaucoup moins d'agilité. Mais quand ils reviennent après sur le terrain, eh bien ils sont bien plus à l'aise.
Mais ça existe vraiment comme entraînement ou tu penses
c'est... je sais pas. Ça m'étonnerait que ça soit vraiment mis en place parce qu'il faut quand même aller dans un endroit où il y a du sable juste pour jouer au basket, sachant que ça sera plus possible de faire des rebonds. Mais ça peut. Okay.
C'est possible quand même.
Bah, on retrouve ça d'ailleurs dans Aikyu.
Ah, alors c'est peut-être dans Aikyu que je l'ai vu alors.
Ah, c'est possible, je sais pas du tout. Mais dans Aikyu, en fait, c'est plus vers la fin. À un moment, il y a un des personnages qui se retrouve à en fait faire du beach volley pour juste entraîner. Ça détend parce qu'en fait, c'est plus dur. Dans le sable pour devenir meilleur en fait.
Ouais. Bon, et après cet entraînement, bien sûr, il y a l'arc que tout le monde connaît, c'est l'arc du tournoi où à chaque fois en fait dans les mangas de sport, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est vrai que j'ai oublié. En fait, il y a des tropes de personnages aussi. Il y a plein de personnages qui reviennent. À chaque fois, ces personnages principaux, il arrive, il rencontre son capitaine qui est en terminale, qui pendant 3 ans a galéré, qui a jamais réussi à atteindre le Graal, qui est le tournoi national. Il l'a jamais réussi. Et donc leur objectif, c'est d'atteindre le tournoi national. Et à chaque fois, le dernier arc ou l'arc principal, c'est l'arc du tournoi où ils arrivent souvent à se qualifier au tournoi national et parfois à aller beaucoup plus loin. Ce qui n'a pas de sens, mais c'est pas grave, on est content quand même.
Exactement, on est content et c'est ça qui compte au final.
Donc franchement, tous les mangas auxquels on a parlé pour l'instant, Slam Dunk y a ça, IQ y a ça, Achille 21 y a ça.
Blue Lock est un peu différent quand même.
Blue Lock, c'est pas pareil.
Blue Lock ne suit pas du tout la même histoire. Il y a même certains d'ailleurs qui doutent que ce soit vraiment un manga de sport. J'ai vu, alors c'est des réactions sur Twitter, attention, mais de personnes qui disent oui, Blue Lock, c'est pas un manga de sport, c'est pas vraiment un manga de foot parce que ça suit pas du tout les mêmes codes. En réalité, Blue Lock, ça parle pas tant de foot que ça.
En fait, c'est juste que ça devient un peu n'importe quoi. Enfin, je veux dire,
battle royal avec du foot, quoi.
Ouais, en fait, c'est juste que la plupart du temps, dans les mangas auxquels on a parlé, c'est assez réaliste. Ils sont extrêmement forts, mais ce qu'ils font, c'est possible. Dans Blue Lock, ce qu'ils font est complètement impossible. Voilà, donc c'est peut-être pour ça. Ah non, dans Concours de basket, je crois qu'il y a des trucs bizarres.
En fait, il y a différents niveaux. Donc, il y a soit les mangas qui sont complètement réalistes, donc mangas de sport, où ils vont suivre le sport. Par exemple, Hikaru no Go, il n'y a pas de pouvoir magique. Non, mais il y a des pouvoirs magiques, mais c'est pas.
Il joue pas. Pouvoirs magiques dans Hikaru
no Go. Oui, mais il y a des pouvoirs magiques, d'accord. Mais c'est pas des pouvoirs magiques qui vont changer le terrain ou des choses comme ça. Et enfin, donc c'est en gros, ils suivent le sport et ils jouent au sport de façon réaliste. Ouais. Alors que dans d'autres mangas, par exemple Inazuma Eleven, donc manga de foot bien connu parce qu'on le regardait en dessin animé quand on était plus jeune, dans Inazuma Eleven, ils utilisent des sortes d'attaques spéciales, de pouvoirs magiques, donc mains célestes et des choses qui du coup ne sont pas du tout réalistes. Et après, il y a l'entre-deux. Et je pense notamment à Kuroko's Basket, où ils commencent avec des phénomènes physiques en disant. On va tirer le ballon un petit peu plus en cloche et du coup ça donne l'impression que ça traverse la main, ou alors il est tellement grand qu'il arrive à maîtriser toute cette partie du terrain, et après ils vont l'extrapoler en le transformant un peu en technique et en extrapolant et en donnant des capacités à ces techniques.
Mais surtout,
qui ne sont pas réalistes.
Du coup, n'importe quoi dans l'histoire, il n'y a pas un type, il peut se mettre n'importe où, il peut mettre un panier à 3 points.
Techniquement, c'est possible. Tu peux te mettre n'importe où sur le terrain et arriver à mettre un panier à 3 points si tu es suffisamment entraîné. Maintenant, on considère que ça peut être une sorte de pouvoir quand c'est extrapolé à l'extrême, comme dans le manga, où de n'importe où dans le terrain, il est censé pouvoir marquer un 3 points.
Bon, et puis après, donc on vous a parlé de la structure de la plupart des mangas sports, donc ça, c'est surtout les mangas sports shonen. Après, il faut savoir que, comment dire, c'est pas. La structure est attendue, c'est pas ça qui fait la force d'un manga sport. C'est vraiment le fait qu'on arrive à rentrer, qu'on arrive à se passionner pour un truc auquel on n'avait absolument rien à faire avant. Avec You, vraiment, je pense que ça a été un phénomène. Du coup, Captain Tsubasa, avant nous, ça a été un phénomène aussi.
Totalement.
Blue Lock et Awashi. Donc Awashi, c'est aussi un manga de sport, mais qui n'a rien à voir avec Blue Lock.
Manga de football, Awashi.
Oui. J'ai dit quoi ?
T'as dit de sport, mais il faut préciser quel sport.
Bon, bref. Donc ça, c'est un peu pareil. Et moi, je vais rapidement vous parler du coup d'Ascension, puisque c'est un peu différent. Donc en fait... Ascension, c'est pas un shonen, c'est un seinen qui est scénarisé par Yoshio Nabeta, d'après le roman d'un type qui s'appelle Jiro Nita, qui s'appelle L'Homme Impassible, et qui est dessiné par Shinichi Sakamoto. C'est un manga qui est sorti entre 2008 et 2011, et en France, un peu plus tard, entre 2010 et 2014. Donc pourquoi je dis que c'est très différent de ce dont on a parlé maintenant ? C'est parce que, en fait, l'histoire commence comme un shonen classique, donc c'est un mec un peu seul, justement, qui connaît pas du tout l'escalade, qui s'ennuie un peu dans sa vie, qui s'appelle Buntaro Mori. Et puis... Bon, je vais pas tout raconter, mais en gros, il y a une suite d'événements qui le mène à découvrir l'escalade, et ça va devenir une passion complète pour lui. Et bien sûr, il y a le truc où il découvre son rival, il est extrêmement fort, mais son rival le bat, et puis il fait quelques compétitions, etc. Et puis très rapidement, je crois que c'est à la fin du premier ou du deuxième tome, tout change d'un seul coup, et on vire tout ce qu'on a dit pour l'instant sur la structure des mangas de sport, et en particulier des shonen, et on part sur un truc complètement différent à base de... un des aspects très importants du personnage principal, c'est qu'il est misanthrope, donc ça veut dire qu'il aime pas vraiment traîner avec les autres, il aime bien être seul. Et beaucoup en fait des aspects du manga vont tourner autour de ça, parce qu'il y a un domaine de l'escalade qui est la grimpe en solitaire, et lui forcément c'est ce qu'il va adorer, mais c'est extrêmement difficile. L'objectif pour lui dans l'escalade, ça va pas être un tournoi national, des qualifications ou je sais pas quoi, être champion du monde. Non, son objectif, ça va être de grimper une des montagnes les plus dures du monde en solitaire, et je crois que la montagne c'est le K2 en Himalaya. Et en fait, il va se placer plein de choses autour de ça, parce que bien sûr, il ne peut pas s'entraîner tout seul, donc il va être obligé de se retrouver avec des gens. Et on va voir toutes les interactions avec les personnages sans être pas sympa. En fait, on voit ce qu'il ressent en tant que misanthrope lorsqu'il y a des interactions sociales. Et c'est vraiment un manga très très bien. Donc c'est peut-être un peu long, mais c'est vraiment, c'est vraiment différent, c'est vraiment génial. Et puis les planches sont extrêmement belles aussi pour le coup. Donc je vous conseille très fortement de le lire. Voilà.
Je suis très d'accord avec Mathieu. Je l'ai lu, mais il y a longtemps. Mais c'est une vraie ambiance, parce que l'alpinisme, notamment le K2 et les entraînements pour grimper cette montagne, c'est dans la neige, c'est dans le froid, donc il y a aussi toutes les difficultés liées à la nature. Parce que, en fait, c'est un affrontement, vu que c'est en solitaire, c'est lui-même qui essaye de se dépasser et il essaye aussi d'affronter la nature et les conditions météo. Oui. Et c'est vraiment quelque chose de vraiment profond. Et puis,
un aspect vraiment important, je vais juste dire le début du meilleur arc pour moi, c'est que voilà, il doit s'entraîner en fait avec 6 personnes et il se retrouve à monter avec 6 personnes sur une montagne. Sauf qu'en fait, quand tu es avec ces personnes-là, quand tu montes une montagne aussi haute et aussi difficile, en fait, ta vie repose sur ces personnes-là. Et même s'ils les détestent, il est obligé de se reposer sur eux, malgré le fait qu'en réalité, les comportements qu'ont ces personnes par rapport à lui sont très, très déplacés, ou en tout cas, il les trouve très déplacés. Et en fait, on arrive vraiment à ressentir à travers lui les émotions et les sentiments que ressent quelqu'un qui a envie d'être tout seul et qui pense qu'en tout cas, que les interactions sociales sont néfastes, en tout cas pour lui. C'est vraiment très bien. Autre chose qui est géniale, mais je ne spoilerai pas, c'est le fait que, justement, contrairement à tous les mangas de sport auxquels on a parlé, il va y avoir des réflexions un peu plus profondes sur, par exemple, parce qu'en fait, la plupart des mangas de sport, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, ça se passe souvent au collège ou au lycée. Ascension, ça se passe, je crois que le type, commence au lycée, mais le gros de l'histoire se passe quand il a 20, 21 ans, 22 ans. Et donc, on voit aussi ce qui se passe, le futur de certaines personnes qui ratent peut-être certaines trajectoires de vie. Et c'est très réel, quoi. Il n'y a pas d'idéalisme, il n'y a pas c'est gentil la vie. Et donc, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, sinon.
Moi, non, j'ai rien particulier à ajouter sur Ascension, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas lu de toute façon, mais j'avais prévu de le lire parce que. C'est vraiment très, très bien.
Voilà. Le deuxième manga auquel je veux parler, c'est Hikaru no Go, du coup. Donc, cette fois-ci, c'est un shonen. C'est un shonen scénarisé par Yumi Ota, qui est dessiné par Takeshi Obata. Et ils ont été construits par une joueuse de 5e dan. Donc 5e dan, c'est un grade assez haut dans le monde du Go. Donc ça a été publié il y a longtemps maintenant, entre 1999 et 2003 au Japon. Et en France, c'est un peu plus récent finalement, même je vois très récent. En fait, ça a été d'abord publié en juillet 2012 jusqu'en novembre 2022. Voilà. Et ça a été aussi, il y a eu une adaptation animée de 71 épisodes entre 2001 et 2003 au Japon. Donc l'histoire, cette fois-ci, c'est un shonen classique. C'est un type qui s'appelle Hikaru qui découvre le Go par hasard. En fait, il va dans son grenier, il découvre un Goban, donc le plateau de Go avec du sang. Il le touche, histoire de fantôme classique. Il tombe sur un fantôme qui s'appelle Sai, qui est un ancien professeur de Go dans une ère révolue du Japon, qui est extrêmement fort. Et à cause de cette apparition, on va dire fantomatique, il va se mettre à jouer beaucoup au Go. Et notamment, il va tomber sur un tournoi. Il va tomber sur un mec qui apparemment est très fort, qui s'appelle Akira, il me semble aussi. Je crois bien. Akari, peut-être plutôt. C'est vrai que c'est Akari, son nom. Bref, qui est extrêmement fort. Donc, c'est quelqu'un de son âge, mais qui a un potentiel énorme. Et en fait, il va laisser le fantôme jouer à sa place, qui est extrêmement fort, et il va l'exploser. Ce qui n'a absolument aucun sens quand tu es débutant de battre quelqu'un qui est extrêmement fort comme cet Akari. Et de là, ça va créer une rivalité et ça va pousser Hikaru à s'investir dans le Go. Donc, on part d'un plot très, très classique. Et on parle finalement d'un sport qui n'est pas, d'un sport on va dire intellectuel, qui n'est pas, de la boxe, qui n'est pas du foot, qui n'est pas du volley. Mais vraiment, c'est incroyable. Vous n'avez pas besoin de connaître le Go pour comprendre le manga. En fait, c'est pas l'essentiel du manga. Et je ne peux que vous conseiller de le lire. En fait, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que l'histoire n'est pas forcément très profonde. Mais c'est vraiment, vraiment très, très, très bien. Voilà. Et c'est à la BD Bedeck.
D'ailleurs, je vais faire un petit retour sur les œuvres dont on a pu parler, et surtout dire celles qui sont à la BD Bedeck. On a du coup Kurosawa's Basket qu'on a à la BD Bedeck, Haikyuu qu'on a également à la BD Bedeck. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Slam Dunk à la BD Bedeck, Hikaru no Go qu'on a aussi à la BD Bedeck. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait parler d'une autre œuvre.
Je sais pas, t'avais un truc à dire ?
Ouais, Alexandre.
Il y a X, X qu'on a aussi.
Ouais. La BD Bedeck aussi.
Hunter Hunter, dont on a parlé qu'on a.
Ouais.
Il y a aussi Lou, oui. Dont on a tous les tomes et le dernier qu'on va bientôt avoir.
Ouais, exactement.
Principalement. Et moi, je voulais juste aussi présenter, je sais pas si ça se prononce Real ou Real, oui. Mais... pardon.
C'est Real. C'est un anglais.
Je ne sais pas si c'est un anglais. C'est Real. C'est un manga de basket, mais de handi-basket. enfin principalement. Et on suit des personnages qui sont très attachants et on découvre une autre réalité à travers des personnages en fauteuil roulant et qui on découvre ce sport. Parce que personnellement, je ne le connaissais que très peu. Mais c'est une occasion de découvrir. Il est disponible à la BD Bedeck et il a été fait par Inoue Takehiko, qui est aussi l'auteur de Vagabond, un autre très bon manga disponible à la BD Bedeck.
Et l'auteur de Slam Dunk également.
Et l'auteur de Slam Dunk.
On en a parlé avant.
Ouais. Donc pour ce manga-là et Ascension, on avait vraiment des codes auxquels on a parlé. Et peut-être un autre manga de sport, là, j'y avais pas pensé. Ouais. Mais c'est Baki en fait. On n'y a pas du tout pensé.
Oui,
mais pareil, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit, mais rien à voir avec Ascension non plus. Alors moi, j'ai lu le début, mais j'ai vu un peu de l'animé. En fait, je sais pas comment expliquer. Genre, c'est juste un type qui veut devenir le meilleur combattant du monde. Un peu, il se déplace dans une organisation qui est un peu une sorte d'UFC, mais underground et interdit. Et où je crois que quasiment tout est autorisé. Et on part vraiment dans un délire où c'est des combats du 1 contre 1, c'est du dépassement, mais dans l'exagération la plus complète. C'est extrêmement bien dessiné. Mais il faut vraiment comprendre que. Comment dire ? Il ne faut pas prendre ça au sérieux, quoi. Parce que par exemple, c'est pas un énorme spoil, mais il y a un arc où il affronte un homme préhistorique ressuscité.
Oula.
Bon, voilà. Voilà. Où il affronte à un moment okay. aussi, il affronte Miyamoto Musashi, ressuscité entre les morts, pareil.
Normal.
Ça n'a aucun sens. Mais c'est incroyable, donc n'hésitez pas à lire. Par contre, c'est extrêmement long, il me semble. Voilà.
D'accord.
Si on autorise aussi les mangas de
sport.
De sport, mais de sport de combat.
Ouais.
Y a aussi The Boxer, mais c'est un webtoon. Mais au moins, on présente des webtoons aussi. Donc, c'est disponible sur le site qui s'appelle Webtoon, qui est donc aussi une application. Et The Boxer, c'est donc un manga de boxe, comme précisé dans le titre, mais avec des personnages aussi très complets et avec une histoire bien construite.
Bon, je vais pas jeter trop d'huile sur le feu, mais je crois que dans une prochaine émission, on parlera des webtoons parce que.
Peut-être qu'on parlera.
Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur les webtoons. Ouais. Pas du bien.
Oh là là.
Oh, c'est très bien les webtoons. Bref, on en discutera une prochaine fois peut-être.
Exactement. Et moi aussi, je vais parler de mon manga de boxe. J'y avais pas pensé. C'est Rikudo. C'est un manga. J'ai plus le nom de l'auteur malheureusement. J'ai oublié. C'est un manga où c'est un jeune garçon qui a des comment dire une enfance très très difficile, très très compliquée et qui trouve refuge. Dans la boxe en fait et qui décide de s'élever et de faire son chemin dans la boxe en essayant de suivre au maximum les traces en fait d'un yakuza qui est en réalité sa figure paternelle et du coup ça raconte son évolution dans ce sport, comment se dépasser, comment trouver du plaisir là-dedans alors que c'est pas vraiment un sport qui est fait pour lui au départ et pourquoi faire un sport de combat aussi, qu'est-ce que ça lui apporte à lui d'en faire un, pourquoi se battre au final. Et voilà, c'est un manga que j'ai pas fini, mais qui est très très bien quand même, et que je conseille donc, on l'a pas la BD Bedeck malheureusement, on peut pas tout avoir. Mais c'est très bien quand même.
Voilà. Bien.
Je crois que Mathieu a des petites choses dont il avait envie de parler.
Bon, les amis,
il nous reste quelques minutes.
On est à la dernière rubrique, c'est ma rubrique. C'est la rubrique où je dis la vérité sur les choses vraies.
Voilà. Ouais, c'est ça, de manière polie et gentille.
Bon, vous connaissez... Non, peut-être que les gens ne connaissent pas, en fait. Il y a un manga très connu, qui a eu énormément de succès, qui est fini, qui s'appelle Demon Slayer, autrement appelé, en France, avant, c'était Pourfendeur de démons. Non, c'était Les Rôdeurs de minuit.
Les Rôdeurs de la nuit.
Kimetsu no Yaiba, en japonais. Voilà, un manga en 23 tomes, fini. Un manga qui a eu 150 millions d'exemplaires en février 2021, vendu uniquement au Japon, c'est n'importe quoi. Bref, plus que One Piece, plus que tout ce que vous connaissez. Eh ben,
c'est
si vous ne connaissez
pas, c'est pas plus que One Piece.
Ah si, je te promets. En 2021, je te promets que c'est plus que One Piece. J'ai vérifié.
Oui,
en
fait,
okay, sur l'année, d'accord. Pardon.
Ah ouais, sur l'année, ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens. En vrai, c'est pas ouf. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est un shonen classique qui est, je trouve, moins bien. Enfin, en fait, je trouve que le succès qu'il a reçu est complètement injustifié. Après, moi, je l'ai lu en entier. J'ai bien aimé. Enfin, il y a certains côtés que j'ai bien aimé, mais je trouve franchement que je sais pas comment expliquer. Mais aidez-moi, vous savez très bien ce que je veux dire. C'est très simple, les personnages sont complètement manichéens.
Il n'y a rien derrière, en fait.
Il n'y a rien derrière.
Il n'y a pas de fond, quoi. C'est ce que tu es en train de dire.
La fin, bon, on ne la spoilera pas. Moi, j'ai trouvé décevante, alors qu'il y a des combats de fous, vraiment. Il y a des combats de fous. En fait, je trouve que... Bon, après, peut-être que je suis vieux maintenant que j'ai 20 ans. Bon, je suis peut-être pas si vieux que ça. Mais je trouve que les shonen que je lisais quand j'étais petit étaient mieux que des Demon Slayer.
Plus petit. Parce que c'était peut-être plus adapté à ton âge aussi, Mathieu.
Non, j'ai lu One Piece, c'était mieux. J'ai lu Bleach, moi j'ai lu Bleach, c'était mieux. Même Naruto, c'était mieux que Demon Slayer. Enfin bref.
J'aime beaucoup Naruto, mais il y a beaucoup de défauts quand même. L'as lu à un âge où tu étais moins critique aussi.
En ce moment, il y a Jujutsu Kaisen en même temps que Demon Slayer. Comment est-ce que. Enfin bref, moi je trouve ça.
Ton avis sur Jujutsu Kaisen ?
Moi je trouve ça bien.
Bah oui, c'est très bien. Bah, j'avais peur que tu dises que t'aimes pas, enfin peur.
Bah juste un chapitre où il faut le lire hyper longtemps là et.
Hein ? Ah oui, bon ça arrive. Bon, voilà. Toi qui aimes bien Hunter x Hunter, ça devrait pas te déranger.
Ouais, bon. Non, mais tout ça pour dire quoi ? Pour dire que si vous cherchez un nouveau manga à lire, ne commencez pas Demon Slayer, ça sert à rien. Si vous voulez, vous pouvez venir à la BD Bedeck pour lire directement le 23e tome et pour ne pas avoir à lire tout le manga.
Enfin, venez à la BD Bedeck, mais pas pour lire juste le 23e tome, s'il vous plaît.
La vérité, c'est que. Comment dire ? J'aimais bien. Enfin, normal, quoi. Je lisais normal et puis j'étais extrêmement déçu par une sorte de révélation qui, je trouve, est un. On va dire une simplicité scénaristique. Bref. Pour ceux qui comprennent, je parle de la lune numéro 1, voilà. Et ils comprendront ceux qui ont lu. Je suis extrêmement déçu. Je trouve vraiment que. Je crois que c'est une autrice. Elle a fait au plus simple, elle a fait au plus court. Et je trouve ça vachement dommage, quoi.
Maintenant, je pense aussi que si l'œuvre elle a eu autant de succès, c'est parce qu'il y a une raison quand même. Moi, je pense que l'œuvre. Alors oui, je suis d'accord que son scénario, il est peut-être un peu basique et que il y a eu des facilités scénaristiques et que c'est des choses un peu oui, bon, ok. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, je trouve que ce qu'on peut pas retirer à Demon Slayer. Alors déjà, les dessins. Moi, j'aime bien. Enfin. Comment dire ? Les dessins en eux-mêmes, je les trouve pas formidables non plus, mais moi j'aime bien les chara-design, je les trouve très cool. J'aime bien le fait que le personnage principal ce soit un frère et une sœur et qu'au final le cœur de l'histoire c'est une relation familiale. Ça j'aime bien.
C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de l'histoire. Mais moi c'est pas important.
Je vais résumer en deux secondes.
Ouais. Ça se passe dans un temps qu'on connaît pas, ça se passe au Japon, il y a des démons. Tanjiro, c'est le personnage principal, il est gentil. Un jour, il revient chez lui, sa famille était tuée par des démons. Du coup, il veut les tuer. Voilà, fin de l'histoire.
Sa petite sœur qui a survécu est en fait devenue un démon. Du coup, pour lui, son objectif, c'est même pas d'ailleurs de tuer tous les démons. Tu dis n'importe quoi. Son objectif à lui, c'est de retrouver le chef des démons, Muzan, le père de tous les
méchant.
Démons, en fait, le méchant.
Il est méchant.
Pour essayer de faire redevenir sa sœur humaine, parce que Muzan est en fait le seul qui aurait peut-être ce pouvoir-là. Ce qui est intéressant, je trouve que c'est le but du personnage principal. C'est même pas une quête de puissance, c'est juste de sauver sa sœur en fait. Son but, c'est pas de monter l'échelle sociale des pourfendeurs de démons, c'est pas de devenir le meilleur, c'est vraiment sauver sa sœur. Et c'est tout. Et s'il doit mourir sur le chemin, il mourra sur le chemin. Mais son but à lui, c'est vraiment ça. Et ça que je trouve beau. Et je trouve aussi qu'il y a une certaine poésie dans Demon Slayer que moi j'aime bien.
Alors
moi je trouve qu'il y a une ambiance un peu.
Poésie dans Demon Slayer.
Oui, il y a une poésie dans Demon Slayer. Une certaine. En fait, je sais pas comment dire ça, mais une certaine tristesse, une certaine mélancolie, tu vois, avec tous ces démons. Et Alexandre est d'accord avec moi, oui. De ce que je vois.
Oui, c'est une histoire... comme vous l'avez dit, c'est une histoire familiale. Avec la petite sœur qui est devenue un démon, donc qui est un petit peu chassée qui ne peut plus trop communiquer. Donc ça, c'est une histoire assez compliquée.
C'est une histoire compliquée ?
Non, mais pas compliquée, pas dans l'intrigue qui est compliquée, mais dans la situation qui est compliquée. C'est quand même Tanjiro qui se balade avec sa sœur dans une boîte, sa sœur qui est transformée en démon. C'est pas une situation facile à vivre, je suppose.
Bon, les amis, écoutez-moi avant qu'on coupe. N'écoutez pas ces gens.
Faites-vous votre propre avis.
C'était bien quand il y avait la hype, tu vois, tout le monde suivait. Maintenant.
Il y a toujours l'anime qui est en train de sortir.
C'est ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'il y a l'anime qui est. Magnifique, qui a une des plus belles animations et l'animation qui, on peut le dire, porte le scénario si on suit le raisonnement de Mathieu.
Mais après, c'est souvent le cas aujourd'hui.
L'animation est magnifique et l'opening est aussi très très beau, à la fois dans la musique et dans la réalisation.
Oui, c'est vrai.
J'écoute jamais les openings.
N'hésite pas à découvrir l'opening alors.
Ça m'intéresse pas. Sachez que j'ai commencé la série, que j'ai pas réussi à la finir parce que j'ai pas aimé.
On va devoir s'arrêter là. C'est dommage, on arrive au bout de notre temps. Je vous dis au revoir. À la prochaine fois et bonne lecture et bonne semaine.
Au revoir.
Lisez pas Demon Slayer.
Vous pouvez dire, oh là là.